Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Morgane Guiriec et Abdourahman Dia en direct de la capitale américaine. Mardi 8 janvier 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
En Centrafrique, des centaines de civils fuient Bakouma dans le sud-est du pays, désormais sous le contrôle des ex-rebelles Séléka.
Élection générale au Nigeria du 16 février, le nombre d'électeurs a augmenté de 20%.
Madagascar, la haute cour constitutionnelle confirme la victoire d'Ange Rajoel à la présidentielle face à son grand rival Marc Ravalomanan.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump prononce ce soir un discours sur la situation à la frontière sud, alors que le gouvernement reste partiellement fermé.
Et en partie magazine, nous aurons les réactions des Gabonais au coup d'État avorté d'hier à Libreville.
C'est un acte à condamner avec la dernière énergie.
C'est Internet qui fait un peu notre métier aujourd'hui. Donc du coup, on n'a pas pu envoyer en temps réel, on n'a pas pu envoyer de nouvelles images, des images fraîches de ce push raté.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
On démarre par la Centrafrique où la situation humanitaire se détériore à Bakouma, dans l'est du pays. Cette localité minière occupée depuis quelques jours par des rebelles du FPRC et de l'UPC, des composantes de l'ex-rébellion Séléka, s'est complètement vidée de ses habitants. Les autorités locales appellent Bangui à l'aide. C'est une correspondance de Freeman Sipila.
C'est depuis le 31 décembre dernier que la ville minière de Bakouma est passée sous le contrôle des hommes du FPRC de Nour Adin Adam et de l'UPC du chef de guerre nigérien Ali Darassa. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées pendant la prise de la ville, alors que des milliers d'autres ont fui en brousse et vers Bangassou à 130 km de là. Ces hommes armés hostiles à toute négociation avec les autorités assurent avoir investi Bakouma pour combattre des hommes de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Une rébellion ougandaise quasi inopérationnelle depuis plusieurs mois dans cette zone. La situation humanitaire est en ce moment catastrophique dans cette ville riche en uranium, car de nombreuses personnes, parmi lesquelles des enfants, continuent de fuir en brousse pour tenter de gagner Bangassou à pied. À Bangui, le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à cette agression, alors qu'il est sur la droite ligne d'un dialogue avec les groupes armés sous la bannière de l'Union africaine. Des FACA, des forces armées centrafricaines des casques bleus de la MINUSCA sont positionnés à 11 km de Bakouma pour empêcher toute progression de ces hommes lourdement armés vers Bangassou. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'Église protestante demande à son tour à la commission électorale de publier, je cite, « la vérité des urnes », alors que les électeurs attendent le résultat de la présidentielle du 30 décembre. De son côté, la majorité présidentielle a accusé le candidat d'opposition Martin Fayoulou et sa coalition Lamouka de vouloir porter atteinte à la vérité des urnes. André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité, a critiqué ce mardi la position des évêques catholiques qui ont affirmé connaître le vainqueur de la présidentielle.
Toujours au chapitre des élections, selon la commission électorale du Nigeria, plus de 84 millions d'électeurs ont été enregistrés pour participer aux élections générales du 16 février. Le point avec Raissa Gironda.
Ces chiffres ont été dévoilés à Abuja lors d'une réunion entre la commission électorale et des représentants des quelques 91 partis politiques que compte le Nigeria. Ainsi, sur les 190 millions de Nigérians recensés en 2017, 84 millions 4084 figurent dans le fichier des électeurs enrôlés par la CENI. Pour le président de la CENI, Mahmoud Yakubu, c'est la dernière phase d'un processus d'enrôlement qui a commencé en 2017. C'est une hausse de près de 20% sur le scrutin de 2015. Le pays le plus peuplé d'Afrique s'apprête à élire ses députés, conseillers régionaux et surtout son président le 16 février prochain. Le président sortant, Muhammadu Buhari, pour le compte du All Progressive Congress, fera face à l'ex-vice-président Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire, principal parti d'opposition. Avant de perdre le pouvoir en 2015, le PDP avait dirigé le pays pendant 16 ans. Trois membres de ce parti, Olusegun Obasanjo, Feu Umaru Moussa Yar Adoua et Goodluck Jonathan, se sont succédés à la tête du pays. Ce dernier a perdu en 2015 face à Buhari.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé la victoire de l'ancien chef de l'État, André Joël, à l'élection présidentielle du mois dernier, en rejetant toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival, Marc Ravalomanan. Le point avec Lionel Gaïma.
Est déclaré élu président de la République, Ange Rajoel a lancé Jean-Éric Rakoto-Arissou, président de la Haute Cour constitutionnelle en Antananarive. La CENI avait déjà annoncé le mois dernier la victoire de Rajoel, 44 ans, avec 55,66% des suffrages lors du second tour le 19 décembre. Son rival Marc Ravalomanan, 69 ans, est crédité de 44,34% des voix. Il avait saisi la justice, invoquant des fraudes massives. Les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine avaient, à l'inverse, affirmé n'avoir observé aucune irrégularité significative lors du scrutin. Ces derniers jours, des centaines de partisans de Ravalomanan ont manifesté dans la capitale malgache. Marc Ravalomanan, élu en 2002, a été contraint de démissionner en 2009 après une vague de manifestations fomentées par Ange Rajoel, à l'époque maire de la capitale. Les deux hommes ont été interdits de candidature à la présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise.
Au Soudan, des centaines de manifestants ont tenu ce mardi un rassemblement pour les martyrs dans une ville de l'Est où plusieurs personnes ont été tuées lors des manifestations provoquées par la hausse des prix du pain le mois dernier. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées durant les manifestations, selon les autorités, mais Amnesty International fait état de 37 morts.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma se sont montrés unis lors du 107e anniversaire de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir. Messieurs Ramaphosa et Zuma étaient assis côte à côte à l'occasion de deux événements organisés dans la province du KwaZulu-Natal, fief de l'ancien chef de l'État. L'ANC est divisé entre les pros et les anti-Zuma. Des élections générales sont prévues en mai prochain.
Toujours en Afrique du Sud, la police a annoncé avoir saisi plus de 700 kg de cocaïne d'une valeur de 44 millions d'euros. La drogue était cachée dans la cale d'un bateau de conteneurs parti du Brésil à destination de l'Inde. La police n'a procédé à aucune arrestation. Une enquête est en cours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, colère à Ankara, en Turquie, suite aux propos du conseiller américain à la sécurité nationale. En Israël, dimanche, John Bolton a déclaré que le retrait des États-Unis de Syrie, annoncé le mois dernier par le président Donald Trump, serait notamment conditionné à des garanties sur la sécurité de leurs alliés kurdes. Des propos jugés inacceptables par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les unités de protection du peuple kurde sont considérées comme des terroristes par Ankara, qui menace depuis plusieurs semaines de lancer une nouvelle offensive pour les déloger du nord de la Syrie.
Et puis la police militaire russe a commencé à patrouiller dans les environs de la ville syrienne de Manbij, une zone autrefois sous contrôle des combattants kurdes soutenus par les États-Unis. Les Russes interviennent en soutien des troupes gouvernementales syriennes.
Par ailleurs, Human Rights Watch accuse les forces du Kurdistan irakien de torturer des mineurs pour qu'ils avouent appartenir au groupe État islamique. Les autorités kurdes rejettent ces accusations.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a débuté à Amman une tournée au Moyen-Orient. Il appelle les alliés régionaux des États-Unis à poursuivre le combat contre les djihadistes et contre l'Iran, malgré l'annonce du retrait des quelques 2000 soldats américains de Syrie. Ils avaient été déployés pour combattre le groupe État islamique.
Ici aux États-Unis, le président américain s'exprime ce soir depuis la Maison-Blanche pour défendre son projet de mur à la frontière. Et cette adresse de Donald Trump intervient au 18e jour d'un shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales. Les précisions de John Lindon.
Engagé dans un bras de fer avec les démocrates, le président américain dresse depuis plusieurs jours le sombre tableau d'une grave crise à la frontière avec le Mexique face à l'afflux des migrants. Ses opposants dénoncent une basse manœuvre politique. L'intervention présidentielle est prévue à 21h heure locale, soit à 2h GMT. Avant cette première allocution solennelle depuis le bureau ovale, M. Trump a fait monter la pression en évoquant une crise de sécurité nationale à la frontière sud. Il pourrait recourir à une procédure d'urgence exceptionnelle qui lui permettrait de se passer du Congrès pour lancer les travaux du mur, a déclaré ce matin son vice-président Mike Pence, qui laisse planer le doute. Une telle initiative, via le National Emergency Act, sera immédiatement contestée devant la justice. Les démocrates, qui contrôlent la Chambre des représentants, ont déjà indiqué qu'ils feront tout pour la bloquer au Congrès. En attendant, quelques 800 000 fonctionnaires restent touchés par le shutdown.
Toujours aux États-Unis, l'avocate russe Veselkaya, qui a rencontré plusieurs membres de l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016, a été inculpée pour entrave à l'exercice de la justice.
Les discussions entre Chinois et Américains à Pékin pour régler le différend commercial entre les deux pays se passent très bien. C'est du moins ce qu'affirme Donald Trump sur Twitter. Le président américain n'a donné aucun détail, alors que les négociateurs ont planché pour une deuxième journée consécutive dans la capitale chinoise.
Et puis l'Union européenne appelle de nouveau à une élection libre et juste au Venezuela, deux jours avant que le président Nicolas Maduro n'entame un deuxième mandat de 6 ans.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et on passe à l'actualité économique sur le continent, dont la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
La CIR est une entreprise publique en charge du raffinage et de la distribution des produits pétroliers. Cet emprunt est composé d'une tranche en euros avec échéance dans 9 ans et d'une tranche en francs CFA d'une maturité de 7 ans. Il servira à rembourser les obligations liées à l'approvisionnement en pétrole et offrira un emprunt sur le long terme devant permettre aux raffineurs ivoiriens de réduire le taux d'intérêt sur l'encours de sa dette. Le Malawi table sur une croissance de 7% en 2019. Pour y parvenir, il évoque une stabilité de ses fondamentaux macroéconomiques, révèle l'agence Ecofin. Cela signifie que sa dette ne s'accumule plus comme ce fut le cas en 2014 et en 2015. Par conséquent, son économie pourra désormais commencer à croître. Pour la Banque mondiale, la croissance du PIB du Malawi devrait tourner autour de 4 à 5% durant les deux prochaines années. Terminons avec le palladium qui vient d'atteindre un niveau record, le marché connaissant un déficit soutenu en raison d'une demande élevée et d'une pénurie d'approvisionnement. Ce métal, utilisé principalement dans les catalyseurs de réduction des émissions pour véhicules, s'échangeait à 1292,90 $ l'once.
L'info sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
L'Égypte accueillera la CAN 2019.
Et oui, l'Égypte est le pays hôte de la première CAN à 24 équipes qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet prochain. Le pays des pharaons a été préféré à son unique concurrent sud-africain à l'issue d'un vote du comité exécutif de la CAF réuni à Dakar. Écoutons la déclaration du président de l'instance africaine du football, Ahmad.
Après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019.
Comme il fallait s'y attendre, les membres de la délégation égyptienne présents à Dakar ont laissé exploser leur joie après l'annonce de la CAF. Écoutons le président de la Fédération égyptienne de football, Ani Abou Rida.
C'est une marque de confiance. En 2006, ça a été un grand succès pour le marketing. Et il y a une évaluation pour se faire, je pense. Non, il y a des gros plans pour la sécurité. Je pense que nous n'aurons aucun problème.
On connaîtra ce soir le Ballon d'Or africain 2018.
Ce sera autour de 22h, toujours à Dakar, lors de la cérémonie des CAF Awards, les trophées récompensant les meilleurs joueurs, joueuses, équipes ou encore entraîneurs africains de l'année. Chez les hommes, l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, déjà récompensé l'an dernier, part à nouveau favori devant son coéquipier sénégalais Sadio Mané et le meilleur buteur actuel du championnat anglais, le Gabonais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.
Et hier, le match des légendes a tenu ses promesses au stade Léopold Sédar Senghor.
Le public a eu droit à 60 minutes de spectacle à la fin. Victoire de l'équipe CAF Légende 3-2 devant la génération 2002 du Sénégal. Les légendes ont été amenées par Joseph Antoine Bell dans les buts, Drogba et Eto'o en attaque, Michael Essien et autres. Côté Sénégal 2002, il y avait entre autres Lamine Diatta, Habib Bey, Aliou Cissé, Salif Diao. Cette rencontre a été placée sous le signe d'un hommage à l'ancien international sénégalais, Jules Bokandé, décédé en 2012.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Abdourahmane Dia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Oui, Morgane, on démarre par la situation humanitaire qui se détériore de plus en plus à Bakouma, dans l'est de la Centrafrique. Cette localité minière occupée depuis quelques jours par des rebelles du FPRC et de l'UPC s'est complètement vidée de ses habitants. Les autorités locales appellent Bangui à l'aide et sur place, la correspondance de Freeman Sipila.
C'est depuis le 31 décembre dernier que la ville minière de Bakouma est passée sous le contrôle des hommes du FPRC de Nour Adin Adam et de l'UPC du chef de guerre nigérien Ali Darassa. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées pendant la prise de la ville alors que des milliers d'autres ont fui en brousse et vers Bangassou à 130 km de là. Ces hommes armés hostiles à toute négociation avec les autorités assurent avoir investi Bakouma pour combattre des hommes de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, une rébellion ougandaise quasi inopérationnelle depuis plusieurs mois dans cette zone. Aboubakar Sidik, porte-parole du FPRC.
C'est juste seulement une mesure sécuritaire, car nous avons décidé d'envoyer nos éléments au niveau de Bakouma suite aux préoccupations des populations qui subissent à chaque fois les exactions des LRA, le groupe de Joseph Kony, qui sévissent dans cette localité là-bas. Et il y a aussi des groupes de bandits qui empêchent la population de vaquer à leur occupation. C'est suite à cela que nous avons décidé d'envoyer nos éléments là-bas afin de sécuriser la localité. Donc notre objectif, c'est cela.
Affirmation rejetée en bloc par plusieurs sources locales contactées par VOA Afrique, des sources qui se sont interrogées si réellement ces hommes lourdement armés avaient l'intention de sécuriser la localité. Pourquoi alors s'en prendre aux habitants, tuant des gens et pillant leurs biens? Sur le terrain, la situation humanitaire est en ce moment catastrophique dans cette ville riche en uranium, car de nombreuses personnes, parmi lesquelles des enfants, continuent de fuir en brousse pour tenter de gagner Bangassou à pied. La préfète du Mbromou, Pierrette Benguéré, appelle à l'aide.
Je profite de cette occasion pour lancer un vivant appel au collectif des députés du Mbromou que la population est en train de souffrir. S'ils peuvent faire un geste pour venir à leur secours, aux humanitaires d'intervenir le plus rapidement possible pour la population qui est en détresse et aux ressortissants du Mbromou de faire un effort parce que les parents sont en train de souffrir.
À Bangui, l'organisation de la société civile dénommée SCRCA monte au créneau et engage le gouvernement à prendre ses responsabilités, selon Chtoua Bina, sa coordonnatrice.
J'exhorte le gouvernement de prendre ses responsabilités, car les gens vivent dans la brousse, il y a eu des morts, on ne peut même pas savoir combien de personnes sont mortes, et les gens sont là, ils ne réagissent pas. Il faudrait quand même que le président de la République parle pour consoler les populations qui sont en fuite dans la brousse, un message pour leur donner la force d'être fort. Mais il y a les militaires qui sont sur place. Est-ce qu'ils sont suffisants? On nous parle des Russes, la MINUSCA, tout ça, mais les gens sont débandés, ils vivent dans la brousse comme les animaux. C'est vraiment déplorable. Nous avons beaucoup œuvré pour la paix. Mais en ce qui concerne les groupes armés, ça, c'est une réponse forte qu'il faut voir avec le gouvernement et la communauté internationale. Ce qui pose problème, ce sont les groupes armés. Et les groupes armés, la solution ne viendra pas de la société civile parce qu'il faut une manière forte pour arrêter tout ça. Il faut arrêter l'hémorragie.
Le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à cette agression alors qu'il est sur la droite ligne d'un dialogue avec les groupes armés sous la bannière de l'Union africaine. Des forces armées centrafricaines FACA et des casques bleus de la MINUSCA sont positionnés à 11 km de Bakouma pour empêcher toute progression de ces hommes lourdement armés vers Bangassou. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Retour au calme à Libreville après la tentative de coup d'État. Le chef du groupe a été arrêté. Le gouvernement affirme que la situation est sous contrôle. Ce putsch avorté a eu lieu alors que le président Ali Bongo est toujours en convalescence à l'étranger. Comment réagissent les Gabonais? Notre correspondant Ismaël Obiangze fait le point depuis Libreville.
La mutinerie avortée du Gabon, un feuilleton à vite oublier, Et tout commence par la rue qu'il faut dégager des restes des barricades laissées par quelques manifestants sur le boulevard Triomphal qui abrite les sièges du Sénat, de l'Assemblée nationale et de Gabon Télévision. Les militaires se chargent de l'opération alors que l'opinion publique commente encore l'acte des soldats désormais mis à la disposition du procureur de la République.
C'est un acte à condamner avec la dernière énergie. Au moment où notre cher président poursuit sa convalescence, courageusement, au moment où il a le plus besoin de son peuple pour le soutenir dans cette épreuve qu'il traverse courageusement, des compatriotes se désolidarisent de cet élan pour organiser ce genre de situation qui ne cadre pas ou une situation qui n'est pas en phase avec nos mœurs.
Condamnation, oui, indignation aussi, mais surtout des questions après cette tentative de coup de force. Usain pas à Libreville sans en entendre parler.
Lorsque je vois, j'essaie un peu de suivre l'information, je trouve trois ou quatre individus au niveau de la télévision. Bon, maintenant, ces individus sont partis de chez eux pour là-bas. Comment? Et ils sortent de loin. Loin, c'est au niveau de la présidence.
Toute la journée d'hier, la capitale gabonaise avait des allures d'une ville fantôme, coupée du reste du monde. Ce journaliste se félicite du retour d'Internet.
C'est Internet qui fait un peu notre métier aujourd'hui. Donc du coup, on n'a pas pu envoyer en temps réel, on n'a pas pu envoyer de nouvelles images, des images fraîches de ce push raté, bien que nous avons exclusivement utilisé la technique d'appel téléphonique. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Internet a refait surface depuis midi et demi.
Un rappel, 2 sur la dizaine de soldats arrêtés ont été tués selon le gouvernement, qui indique et réaffirme que la situation est sous contrôle.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
La haute cour constitutionnelle malgache a validé ce mardi la victoire de l'ancien chef de l'État, Ange Rajoel, à l'élection présidentielle du mois dernier. La cour a donc rejeté toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival Marc Ravalomanan. Idriss Fall a joint à Antananarivo le président de la haute cour, Jean-Éric Rakoto Arissou.
Le candidat en 2020, donc, est élu à 55,68% des voix. Donc, maintenant, le résultat officiel donc, a été proclamé aujourd'hui.
Et son rival, Marc Ravalomanan, il obtient combien?
Il obtient donc 44% des voix.
Il avait déposé des recours auprès de votre institution après publication de ses résultats par la CENI.
Oui, il a déposé un certain nombre de recours, mais seuls quelques-uns ont été retenus par la Cour. Hein. La plupart des recours déposés donc n'étaient pas accompagnés de preuves permettant de remanier les résultats. Les résultats sont pratiquement les mêmes qu'avec la CENI. Puis d'autre part, donc, il y a eu quand même un écart de voix de presque 500 000 voix, donc un renversement n'était pas possible.
Il n'a plus d'autres recours possibles alors?
Oui, il n'a plus d'autres recours possibles parce que les résultats donc proclamés par la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire l'objet de recours.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'épilogue d'une crise qui a duré depuis 2009?
Oui, normalement, c'est l'épilogue. Donc, il y a quand même aussi, dans 2-3 mois, il y aura les élections législatives. Donc, moi, je pense qu'il y aura de nouveau une compétition entre les deux camps hein, pour les élections législatives. Ça va avoir lieu ici le mois de mars, normalement.
Mais elle a déjà commencé par la rue, parce que les partisans de Ravalomanan battent le pavé à Tana, non?
Oui, à je ne sais pas si ils vont continuer après la proclamation officielle des résultats que nous avons dans les prochains jours. Mais la sagesse serait de préparer les législatives.
Vous pensez qu'il n'y a pas de risque de revenir à la crise de 2009 où Radjoel contestera Valumanan?
En l'état actuel, je ne pense pas qu'on va aller vers une nouvelle crise. Vous savez, la population est fatiguée de crises à répétition. Donc, celui qui créera une crise risque d'être populaire auprès de la population.
C'était Jean-Éric Rakoto Arisso, le président de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La semaine dernière, le Burkina a vécu une tragédie. Des violences intercommunautaires ont fait 47 morts dans le centre nord du pays, des membres de l'ethnie Peul pour la plupart. Le président Roch Marc-Christian Kabore s'est rendu sur les lieux pour tenter de calmer les esprits et appeler à la réconciliation. Comment expliquer ce drame? Éric Manirakiza a joint à Ouagadougou le défenseur burkinabé des droits de l'homme, Ismaël Diallo.
Ces crimes viennent nous rappeler que nous n'avons pas su, depuis l'avènement de l'indépendance, construire une nation, mais que nous avons vécu entre ethnies, entre communautés juxtaposées. Il faudrait chercher à comprendre pourquoi il y a ce désamour entre certaines communautés et pourquoi pouvons-nous aller jusqu'à des assassinats. Mais il faudrait d'abord que nous acceptions que nous avons ce problème avant de pouvoir l'examiner et le résoudre si nous en avons la volonté et la capacité. Personne ne pense que nous avons ces différents ethniques. Ça a toujours été quelque chose de latent. Ça date peut-être de quelques décennies.
Le président de la République s'est rendu sur les lieux. Est-ce que vous sentez une présence de l'État dans cette localité frappée par cette tragédie?
J'entends des commentaires qui ne sont pas élogieux sur ce passage-là et sur les propos qu'il a tenus, parce que à son arrivée, il a été reçu par une milice armée qui n'est pas une institution, une branche, une structure de l'appareil étatique. Et en plus, il a eu l'air de privilégier dans ses propos l'entente, la réconciliation plutôt que la justice. Et nous ne pouvons pas, en tout cas beaucoup de Burkinabés ne s'illusionnent pas, de penser que nous pouvons aller à une réconciliation quelconque si nous ne passons pas par la justice.
Donc ça ne résout pas le problème, de fond?
Ça ne résout pas le problème. C'est à nous tous de nous emparer de ce problème et d'être francs entre nous, de pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal et discuter ouvertement sur ces différents ou ces différences que nous avons. Si nous tenons à perpétuer ce que nous avons appelé le vivre ensemble, il y a des déchirures qu'il faudrait colmater, qu'il faudra réparer.
Comment justement régler ce problème ethnique?
En dehors des rixes, de querelles sur le foncier, nous avons su préserver la quiétude sociale. Mais nous sommes, je crois, arrivés à une limite où nous devons, toute honte due, regarder les choses en face et accepter que nous ne sommes pas une exception sur les questions ethniques.
On voit le même problème au Mali, aussi au Nigeria.
Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un complot généralisé contre les Peuls. Mais il est intéressant, et je crois qu'il serait bon de poser le problème très clairement. Qu'on soit Peul ou pas Peul, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un problème Peul dans beaucoup de pays ouest-africains et centrafricains. Pourquoi? Est-ce que cette ethnie est différente des autres? Est-ce que cette ethnie ne sait pas vivre avec les autres? Ou est-ce que c'est une manipulation qui ne date que de 2 ou 3 décennies?
Voilà, c'était Ismaël Diallo, joint à Ouagadougou.
Voilà, Morgane, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Abdourahmane Dia et Morgane Guériec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.